Allez, question. Quelle est pour vous la chose la plus importante, ou au moins l'une des choses les plus importantes que le chrétien doit faire? Aimer. Aimer, prier. Et au-dessus de toute autre chose, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui, du cœur, coulent les sources de la vie. Du cœur viennent les facteurs qui contrôlent la vie. Proverbe 4, 23. Au-dessus de toute autre chose, garde ton cœur. Romains 10, c'est avec le cœur que l'homme croit et est justifié, que vous croyez que vous êtes justifié. Donc, eh bien, la foi, elle demeure où? Elle demeure dans le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est la demeure, c'est la maison de la foi. Et si je ne garde pas mon cœur, c'est dangereux pour ma foi. Alors, c'est un peu comme le soir, je veux dire, avant d'aller coucher, est-ce que vous ne contrôlez pas? Enfin, je le fais si la porte d'entrée de la maison est fermée, quoi. Avant d'aller me coucher, parce que pendant que je dors, ben, je ne suis pas vigilant, quoi. Je ne monte pas la garde, quoi. Mais au moins, mais c'est pareil spirituellement, je crois. Il faut s'assurer que la porte soit bien gardée. Alors, un rappel aussi. 2 Corinthiens 5, 7. Alors, maintenant, dans la même lignée, un rappel de Corinthiens 5, 7. Nous vivons, nous marchons par la foi et pas par la vue. Je sais que la première fois, quand Jean-Luc m'a demandé d'apporter quelque chose, c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné. Nous marchons par la foi et pas par la vue. Nous marchons parce que par la foi et pas par la foi, c'est-à-dire parce que l'on croit et pas parce que l'on voit. Et j'avais dit, et je voudrais peut-être le rappeler aussi encore aujourd'hui, une fois j'avais un pasteur que j'ai entendu dire, eh bien Dieu nous a donné des yeux pour voir, pas pour croire. Nous marchons par la foi, je marche par la foi parce que je crois et pas parce que je vois. C'est là ce à quoi aussi le Seigneur nous appelle. Alors, on peut regarder à quelques exemples rapides, et après on va s'attarder sur un cas qui j'espère va nous aider, nous édifiera. Donc là, on va essayer de passer assez rapidement. Psaume 73. Commençons verset 1. C'est sûr, il n'y a pas de doute. Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, mes pieds avaient presque glissé. J'avais presque perdu mon pied d'appui. Car j'ai envié l'arrogant quand j'ai vu la prospérité du méchant. Ils n'ont pas de problème, pas de difficulté, pas de lutte. Leurs corps sont en bonne santé, ils sont forts, ils sont libres, ils sont épargnés des fardeaux communs à l'homme. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment. Bref, il fait un descriptif de ce qu'ils voient. Ils voient des gens qui se portent bien, apparemment tout va très bien pour eux. Ils prospèrent. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et il continue, verset 10, « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment et ils disent, comment Dieu pourra-t-il savoir? Comment est-ce que le Très-Haut connaît ces choses? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent en richesse. » Donc, on voit donc bien cet homme, il regarde autour de lui et il laisse ce que ses yeux voient affecter ce qu'il y a dans son cœur. Ce que son cœur voit amène des pensées. Il ne prend pas ses pensées en captivité. Il les laisse parler. Et il ne garde pas son cœur. Mais il ouvre la porte de son cœur grande ouverte à ces pensées-là. Et ces pensées, eh bien, pour eux, pour elles, eh bien, c'est super. Allez, la porte est grande ouverte, allons-y, entrons. Et ces pensées, eh bien, commencent à entrer dans le cœur. Elles commencent à s'installer. Et au point où, au verset 13, il en vient à dire, sûrement, c'est sûr, il n'y a pas de doute, en vain. J'ai gardé mon cœur pur. En vain, j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc, nous devons, il est important de garder notre cœur parce que notre cœur, c'est la demeure de la foi. On va y revenir après au psaume 73. Un autre exemple, si on va dans Luc 8. Alors, attendez, j'ai un petit truc normalement pour Luc 8. Luc 8, 40 à 50. On est dans l'évangile de Luc. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'aller chez lui, d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était en train de mourir. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et donc Jésus essaye donc d'aller à la maison de cet homme, et puis bon, sans doute qu'on connaît tous bien l'épisode, il y a cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 années, qui avait été voir des docteurs, et puis ça s'était jamais résorbé. Et elle voit le Seigneur, et cette femme, elle a la foi dans son cœur, et donc elle passe au travers la foule, puis elle va toucher le Seigneur. Et le Seigneur, bon, il sait ce qui s'est passé, bon. Et ça ralentit le processus du Seigneur. Et au verset 49, comme il parlait encore, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera guérie. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est le Seigneur qui intervient pour garder, pour protéger le cœur de Jaïrus. Le cœur, la foi demeure dans le cœur. Jaïrus avait la foi que sa fille, eh bien, le Seigneur, il pouvait la guérir. Il avait la foi dans son cœur. Et au verset 50, donc finalement, quand cette nouvelle arrive, le Seigneur, eh bien, c'est comme si, entre guillemets, il saute sur Jaïrus et il dit, Jaïrus, regarde-moi. Ne laisse pas cette nouvelle, ne laisse pas ce rapport aller dans ton cœur. Si ce rapport était allé dans son cœur, la foi de Jaïrus serait morte. Donc ici, c'est le Seigneur qui intervient pour vraiment garder le cœur de Jaïrus. Donc, nous devons garder nos cœurs parce que nos cœurs sont la demeure de notre foi. Si on va dans le livre des Actes, on voit Acte 9. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Au verset 40, Pierre, il a fait quoi ? Il les a fait sortir de la chambre. Et je crois vraiment pourquoi il a fait ça ? Bien, c'était pour protéger sa propre foi à lui. Parfois, il est nécessaire de s'éloigner de personnes et de ce qu'elles peuvent dire afin de protéger notre propre foi. Et ici, bon, elles étaient sans doute, il n'y avait rien de mauvais dans ce qu'elles disaient, quoi. Mais il était nécessaire pour Pierre, bien, de se séparer de ces personnes, de ce qu'elle disait, pour protéger la foi qu'il avait dans son cœur. Et Pierre, là, il a fait ce qu'il a vu son maître faire lorsqu'il a ressuscité, bien justement, c'était, je crois, la fille de Jaïrus des morts, puisqu'il, quand il était arrivé chez Jaïrus, il a dit, elle n'est pas morte, elle est simplement endormie, puis ils se sont moqués de lui, bon, il les a fait sortir. Donc, il est important donc, de garder notre cœur, parce que notre cœur est la demeure de la foi. Alors maintenant, nous allons voir un autre exemple, et là on va s'y attarder plus quand même. Et c'est l'exemple d'un homme, un disciple du Seigneur, et c'est Pierre. Alors Pierre, dans Matthieu 16, Matthieu 16, commençant au verset 13. Quand Jésus vint dans la région de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Les gens à l'extérieur, qui disent-ils que je suis ? Qui disent-ils que le Fils de l'homme est ?» Ils répondirent, ben, « Il y en a qui disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, et encore d'autres Jérémie, et un des prophètes. » Et vous, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur répondit, « Tu es béni, tu as de la chance, Pierre, tu as de la chance, Simon, fils de Jonas. Tu as de la chance au point à être envié par les autres, tu es béni, c'est ce que ça veut dire. Parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas l'homme qui te l'a révélé, c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. » Donc Pierre, il a dans son cœur une révélation de qui est Jésus qui lui vient de Dieu le Père. Et cette révélation, elle parle. Le Seigneur demande, « Qui dites-vous que je suis ?» Aussitôt, de l'abondance du cœur, la bouche parle, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a donc une révélation que Dieu le Père est venu lui déposer dans le cœur. Et à mesure où Pierre marche avec le Seigneur, il y a cette révélation qui lui parle. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, il a vu ses miracles, il a vu ses deux démoniaques dans Matthieu 28 qui sortaient des tombes, des sépulcres, et rencontraient Jésus. Et attendez, si on y va en vitesse, dans Matthieu 8, verset 28, « Ils étaient si furieux, ces deux hommes, que personne n'osait passer par là. Et voici, ils crièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Les démons ont même supplié donc le Seigneur, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et le Seigneur l'a fait. Donc, et ils ont vu donc la délivrance de ces deux hommes complètement possédés. Et je suis sûr que son cœur à Pierre, il devait dire, « Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre, il a vu le Seigneur guérir cet aveugle qui criait « Jésus, fils de David, aie miséricorde envers moi !» De nouveau, son cœur, Pierre, il est là, il regarde toutes ces choses-là, son cœur, il dit « Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant !» Il a vu le Seigneur, Pierre, il a vu le Seigneur lui donner un morceau de pain et un morceau de poisson, et Pierre, il a commencé à les distribuer, puis ça ne s'épuisait jamais. « Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant !» Et Pierre, il était avec les autres disciples dans un bateau cette nuit-là, lorsque d'un coup, ils ont vu le Seigneur s'avancer marchant sur l'eau. Ils étaient tous terrifiés, pensant qu'il s'agissait d'un fantôme. Et Pierre qui lui dit, « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. » Et le Seigneur dit, « Viens. » Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Et quand ils étaient de retour dans le bateau, ils l'ont tous adoré. Et ils ont dit, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Donc Pierre, il a toutes ces choses-là, il est témoin de toutes ces choses-là qui confirment. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, il était l'un des trois que le Seigneur a appelé, a pris avec lui et les a menés sur une montagne haute à l'écart, dans Matthieu 17. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » C'est le point culminant de la confirmation de cette révélation que Dieu le Père est venu lui mettre dans son cœur. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ce que Pierre voyait, tout ce que les yeux de Pierre voyaient confirmait ce qu'il avait dans le cœur. Tant que Pierre voyait ces choses-là, tant que ses yeux voyaient tous ces miracles et la transfiguration du Seigneur, eh bien, tout était OK puisque ça collait avec la révélation qu'il avait dans le cœur. Il n'y avait pas de problème. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis est arrivée la dernière Pâque. Durant le repas, bien, le Seigneur a proclamé expressément la nouvelle alliance. Et après le repas, donc, ils allèrent au mont des Oliviers. Et en y allant, donc, le Seigneur leur prophétisa, commença à prophétiser. Il leur a dit, cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. Je vais être une occasion de chute pour vous tous. Vous allez tous être offensés à mon égard. Vous allez rencontrer un obstacle dans votre foi à mon égard. Vous allez chuter. Le mot grec ici, c'est scandalizo. Alors scandalizo, c'est un mot de l'ancien grec. On reconnaît facilement le mot scandalisé, hein, le verbe scandaliser, offenser, indigner, offusquer. Hein. Et une définition peut-être rapide. Scandalizo, donc, c'est mettre une pierre d'achoppement, une interférence, une gêne sur la voie sur laquelle, eh bien, une personne, eh bien, pourra, eh bien, trébucher, tomber. Et c'est venu à dire aussi, donc, offenser. Donc, quelque chose sur laquelle on a un bloc, une pierre sur laquelle on achoppe, que l'on heurte, contre laquelle on heurte, contre laquelle on bute et qui fait tomber. Et donc, eh bien, le Seigneur les prophétise en disant, eh bien, cette nuit même, vous allez tous être scandalisés, offensés, indignés, offusqués, outrés, parce que vous allez voir. Cette nuit même, vous allez voir des choses que vous ne serez pas capable d'accepter. Vous allez voir des choses que vous n'allez pas aimer. Vous allez être offensés. Quand le Seigneur annonça cela, Pierre répondit, Seigneur, quand bien même tout le monde serait offensé à ton égard, quand bien même tu serais une pierre d'achoppement pour tous, une cause de chute pour tous, jamais pour moi. Bien sûr, il a la révélation de qui ? De Dieu le Père dans son cœur. Cette révélation, elle parle. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elle parle. Il sait qui il est. Et le Seigneur, eh bien, continue à dire, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Mais Pierre ne pouvait pas l'entendre. Pierre ne pouvait pas l'entendre, il ne pouvait pas imaginer qu'il ferait cela, qu'il renierait le Seigneur. Et donc il répond, mais même si je dois mourir avec toi, jamais je te renierai. Alors, est-ce qu'il parlait légèrement quand il a dit ça? Pas nécessairement, parce que quand le moment est venu, eh bien, on le verra, ça a été celui qui a tiré l'épée tout de suite. Hein. Il était prêt, entre guillemets. À propos de ces événements-là, c'est dans l'évangile de Luc, à propos des événements qui allaient arriver, dans l'évangile de Luc, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan a demandé avec excès à vous passer tous au crible comme le froment, le blé. J'ai prié pour toi, Simon, que ta foi ne défaille pas, que cette révélation que mon Père est venu mettre dans ton cœur, eh bien, qu'elle demeure vivante, qu'elle ne meure pas. Et Pierre donc répondit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à mourir. Jésus répondit donc, dans l'évangile de Luc, bien la même chose. Je te le dis, Pierre, eh bien, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Donc, dans ce qui allait se passer, on voit aussi donc, eh bien, que l'ennemi allait être à l'œuvre dans ce qui allait se passer. Et donc, ensuite, ils sont allés au jardin de Gethsémani, et en sortant du jardin de Gethsémani, eh bien, il y a ces événements que l'on connaît, et c'était la première fois. Pour la première fois, ce que ses yeux à Pierre allaient voir n'allait plus coller avec ce qu'il avait dans le cœur, avec cette révélation qui parlait. Ce que ses yeux allaient voir allait maintenant entrer en conflit avec ce qu'il avait dans le cœur. Et c'est alors qu'une bataille commença, une guerre commença. Son cœur disait, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il verrait quelque, mais il allait voir quelque chose d'autre. Pour lui, ce que son cœur disait n'allait plus être ce que ses yeux voyaient. Pendant ces quelques années, à chaque fois, il a vu ce que son cœur lui disait, c'était confirmé, mais plus là. Il a vu quelque chose d'autre qui ne collait plus avec la compréhension qu'il avait de la révélation de Dieu dans son cœur. Et la révélation du Père dans son cœur, eh bien, elle commença à être sous attaque, à être sous pression, à être pressurisée, je ne sais pas si on le dit, ça se dit, jusqu'à mourir. Point d'interrogation. Alors, si on lit dans Matthieu, si on s'attarde un peu quand même sur ces événements, dans Matthieu 26, commençons au verset 45. Alors il retourna à ses disciples, c'est dans le jardin de Gethsémani, et leur dit: êtes-vous encore en train de dormir et de vous reposer? Regardez, l'heure est proche. Et voici, le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Viens, arrive celui qui me trahit, qui me livre. Pendant qu'il parlait encore, Judas, l'un des douze, arriva. Avec lui, il y avait une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyés des principaux sacrificateurs, des principaux prêtres, et les anciens du peuple. Dans Jean, il est dit aussi bien qu'il y a dans cette foule, eh bien, il y avait un détachement de soldats, d'officiels, des principaux prêtres et des pharisiens, et qu'ils portaient donc des torches, des lanternes et des armes. Judas trahit le Seigneur, et alors on lit. Alors les hommes s'avancèrent, saisirent Jésus et l'arrêtèrent. Quand ceux qui suivaient Jésus virent ce qui allait se passer, ils dirent: Seigneur, est-ce que l'on doit frapper avec nos épées? Et l'un d'entre eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupant l'oreille droite. Mais Jésus répondit: arrêtez ceci. Remets ton épée à sa place, lui dit Jésus. Car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Alors ce disciple qui avait tiré son épée, son sabre, c'était Pierre. Et dans Jean 18:11, on dit, bien, Jésus commanda à Pierre, à lui, bien qu'il y avait cette révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus commanda à Pierre, range ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Dans Matthieu 26, donc maintenant au verset 56, ou même au verset 53 et suivant, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent, le désertèrent, prirent la fuite. Et pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Parce qu'ils avaient peur? Non, le Seigneur l'a prophétisé. Ils étaient offusqués par ce qu'ils ont vu, indignés, scandalisés. Parce qu'ils ont vu. Alors, sur le chemin, quand ils partaient, je ne sais pas, il y en a peut-être qui secouaient la tête et qui disaient, j'arrive pas à le croire. Pendant 3 ans, on l'a suivi, et regardez maintenant. Il y avait peut-être comme un dégoût, offensé. Ils sont offensés par ce qu'ils voient. Ils sont en train de heurter, de buter contre, d'achoper sur quelque chose qui n'arrive pas à accepter. Alors, par la suite, le détachement de soldats avec son commandant et les officiels juifs arrêtèrent Jésus et ils le lièrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre à ce moment-là? Donc, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin. Donc, il y a, dans les disciples, il y en a maintenant 9 qui sont partis. Il y a Judas, bien sûr, qui l'a trahi. Il y a Pierre qui, lui, bien, il part pas tout de suite. Son cœur parle encore, sans doute moins fort, mais il parle encore un peu quand même. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il y a cette bataille entre ce que ses yeux voient et ce que son cœur dit. Donc Pierre, il suit à une distance. Et il suit à une distance, l'Écriture dit, pour voir quelle allait être l'issue de cela. Donc sa foi continue quand même à parler. Et dans les disciples, bon, il y avait bien sûr aussi Jean, bien qui Jean, bien Jean, on le retrouve à la croix. Hein, Jean, il était encore là. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la fille de garde, là, à la porte, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la fille de garde, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs, les officiels qui étaient là avaient allumé un feu, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Apparemment, d'après l'évangile de Luc, quand on lit ces événements-là, Pierre devait être relativement proche quand même du Seigneur. Le Seigneur a été emmené dans la maison du souverain sacrificateur qui apparemment devait se trouver, alors je ne sais pas s'il y avait un escalier un peu haut, et lui, il était dans la cour en bas, dit l'Écriture. Et apparemment, il y a quelque chose qu'on peut le voir par la suite, bien, qui nous montre qu'il devait être assez proche, il faisait noir, bon, donc il devait sans doute y avoir de la lumière dans cette maison, et Pierre observait et pouvait peut-être percevoir certaines des choses qui se passaient là. Et la bataille donc continue entre ce que son cœur dit et ce que ses yeux voient. La flamme de la révélation du Père dans son cœur devenait de plus en plus petite. Durant ces événements, eh bien, Satan, bien sûr, probablement était en train de tenter Pierre, peut-être que Pierre essayait de ne pas voir, de ne pas regarder, ça lui était difficile, mais l'ennemi sans doute eh bien, l'incitait à regarder, en disant, oui, regarde, regarde, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, regarde, regarde. Et donc il y avait cette bataille qui avait lieu. À un moment donné, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci, parlant de Pierre, était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, et cette fois-ci avec serment. Pierre était en train d'être passé au crible. La foi de Pierre était sur le point de mourir. Elle était de plus en plus étouffée. Elle manquait de plus en plus d'oxygène. Tout comme une flamme a besoin, je crois, d'oxygène pour brûler, eh bien, il y avait moins en moins d'oxygène dans le cœur de Pierre pour nourrir cette révélation, qui parlait de plus en plus bas. À ce moment-là, donc, eh bien, il semble que cette révélation s'apprête à mourir. Et au verset, donc, 74. Et il faut voir aussi que ça s'est allé sur en gros plus d'une heure même. Et c'est environ une heure plus tard, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage, ton accent te trahit. » Alors, il se mit à faire des imprécations, à invoquer une malédiction sur lui-même, et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et à ce moment-là, je crois vraiment que la flamme de la révélation du Père dans le cœur de Pierre, eh bien, elle est prête là, elle est sur le point de s'éteindre. Elle est sur le point de s'éteindre. Je crois qu'on peut dire que Pierre là, eh bien, il est un peu en train de marcher sur une couche de glace des plus fines. Et je crois vraiment eh bien, donc, que c'est alors que Dieu intervint. Le Seigneur avait intercédé pour lui. Il avait demandé au Père de ne pas laisser la foi de Pierre défaillir. Et je crois que c'est là que Dieu est intervenu. L'Écriture dit immédiatement, à ce moment-là, Dans Luc, il est même dit, Pierre n'avait pas fini de parler cette troisième fois, que bien Dieu intervint. Il intervint comment ? En faisant chanter un coq. C'est formidable quand même, hein ? Mais le coq, il n'a pas chanté quelques secondes plus tard, ça aurait peut-être été trop tard. Il venait d'invoquer une malédiction sur lui-même, il venait de jurer qu'il ne le connaissait pas. Quelques secondes plus tard, je veux dire, cette flamme, elle était quasiment morte là. Si ce coq n'avait pas chanté à ce moment-là précis, Pierre n'avait pas fini de parler la troisième fois, elle aurait été éteinte. Et là, je crois que ça aurait été fini. Dieu, il est intervenu. Immédiatement, en faisant chanter un coq. Dieu veillait. Dieu veillait. Et quand ce coq a chanté, alors Pierre se souvint de la parole que Jésus avait donnée avant que le coq ne chante. Tu me renieras trois fois. Alors il se souvint. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors il s'est souvenu de la parole de Jésus. Et cette parole de Jésus qui lui est revenue en lui est venue comme un vent d'oxygène qui a balayé son cœur et qui est venue rallumer cette flamme d'un coup. Amen. Cette flamme, elle était prête a été presque éteinte là, presque sur le point de mourir. Et pff, ce vent d'oxygène est venu. Amen. La foi a besoin de la parole. Et ça me rappelle aussi cette écriture dans 1 Corinthiens 10 qui dit que Dieu ne nous laissera pas tenter, éprouver au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que dans la tentation, dans l'épreuve, Dieu, notre Père, veille et il ne nous laissera pas tenter au-delà de ce que l'on peut supporter. Ce qui veut dire qu'il garde un œil, il surveille et si l'épreuve, la tentation venait à être supérieure à ce que nous pourrions supporter, il interviendrait, il dirait stop. Et là, il l'a fait en faisant chanter un coq. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et la flamme dans le cœur de Pierre reprit de nouveau. Sa foi ne mourut pas. Alors il sortit et pleura amèrement. Et c'est là où on voit que sa foi n'est pas morte. Il a pleuré amèrement, forcément. Trois fois, il vient de renier son Seigneur. L'intervention donc de Dieu a été une réponse à l'intercession du Seigneur, que sa foi ne défaille pas. Et d'ailleurs, trois jours plus tard, lorsque les femmes sont revenues du tombeau en courant et en annonçant eh bien, ce qui s'était passé, ce qu'elles avaient vu, bah, Pierre, ça a été l'un des deux à courir au tombeau avec Jean pour aller voir ce qui se passait. Sa foi, elle était encore là quand même. Alors c'est sûr que pendant ce moment, cette période-là, ben il a été passé au crible, sans doute qu'il y avait comme un tremblement de terre dans son cœur, quoi. Il tenait plus rien du tout, mais Dieu le tenait ferme. L'Écriture a dit que bien même si la terre tremble ou tremblait, bien Dieu tient ses piliers fermes. Dieu est la force de notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 16, donc, eh bien, quand le Seigneur eh bien, disait, mais, et vous, qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, répondit Pierre. Et le Seigneur donc continue après en disant, bien, tu es béni, tu as de la chance, Pierre, ça, c'est mon Père au ciel qui t'a révélé cela. C'est pas l'homme qui te l'a révélé. Et après, donc, le Seigneur continue à lui dire, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tout comme ici, le Seigneur commençait déjà à construire son église à ce moment-là. Les portes de l'enfer, l'ennemi n'a pas prévalu, c'est ce qu'on dit, n'a pas dans ces événements-là. Alors que l'ennemi était en train de le passer au crible, il avait demandé avec excès à les passer tous au crible. Mais déjà là, c'était le début quand même de l'église, les portes de l'enfer n'ont pas emporté. Et dans Matthieu 16, donc, les versets suivants, il dit ensuite, à partir de ce moment-là, le Seigneur commença à expliquer, c'est important, pas à dire, mais à expliquer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de choses aux mains des anciens, des principaux sacrificateurs, des enseignants de la loi, et qu'il devait être tué et le troisième jour être ressuscité. Et quelle fut alors la réaction de Pierre? Quand le Seigneur avait dit ça, dans Matthieu 16. Pierre, il a été scandalisé. Pierre, il a déjà à cette époque-là, il a manifesté ce que le Seigneur a prophétisé à leur égard. Qu'est-ce qui arriverait? Il a été scandalisé. On lit, Pierre prit Jésus à part et se mit à le reprendre, à le réprimander. Jamais, Seigneur, ceci ne t'arrivera jamais. Je t'interdis de dire des choses comme ça. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Pierre, déjà là, avait manifesté ce que le Seigneur avait prophétisé qui arriverait. Il était scandalisé, offensé, offusqué. Ça ne lui allait pas. Ça ne collait pas avec ce qu'il avait dans le cœur. Comment ça? Et quelle a été la réponse du Seigneur? Jésus se tourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une pierre d'achoppement, tu m'en es scandale, tu n'as pas en pensée les choses de Dieu, mais les choses des hommes. » Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pierre avait dans le cœur une révélation qui lui venait du Père, quant à qui est Jésus. Mais à cette révélation, quelque chose était venu s'ajouter qui affectait cette révélation. Qui était venu dénaturer cette révélation. Ce quelque chose, on le lit dans Matthieu 16, le Seigneur le dit, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais qui vient des hommes, des pensées des hommes, et qui peut être utilisé par Satan, puisque le Seigneur, eh bien, en parlant à Pierre, dit « Arrière de moi, Satan !» Ce quelque chose avait amené une conviction aussi dans le cœur de Pierre. Il savait qui était Jésus, il le parlait, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais ce quelque chose avait amené une conviction aussi dans le cœur de Pierre qui l'empêchait d'entendre la parole de Dieu. Plusieurs fois, le Seigneur leur avait dit qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir, mais ils ne l'ont jamais entendu, ils ne l'avaient jamais entendu, Pierre. Ou quand il l'a entendu, il en était offusqué. Alors, question, cela pourrait-il s'appliquer à nous? C'est-à-dire que nous serions rendus sourds à ce que dit le Seigneur, que nous serions rendus sourds par une conviction qui ne vient pas de Dieu, mais vient des hommes, et qui peut être utilisée par Satan, et dont nous ne serions pas conscients, Pierre, il n'en était pas conscient, et dont nous ne connaîtrions pas la différence entre cette conviction et la révélation de Dieu dans notre cœur. Tant que les yeux de Pierre... Tant que ce que ses yeux voyaient, eh bien tout ce que les œuvres du Seigneur, eh bien pour lui, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun conflit. Sa propre conviction, qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait des hommes et était utilisée par Satan, elle n'était pas défiée, elle n'était pas attaquée. Mais maintenant, pour la première fois, parce qu'il avait été sourd à la parole de Dieu. Maintenant que ses yeux voyaient ces choses-là, mais il ne pouvait plus y échapper. Bon, que le Seigneur dise une fois, oui, bon, qu'il doit aller à Jérusalem et souffrir, bon, très bien, il le réprimande, le Seigneur lui répond, bon, puis sans doute que ça se tasse, quoi. Puis ensuite, bon, cette conviction qu'il avait dans le cœur qui n'était pas de Dieu, eh bien, elle n'a pas vraiment été défiée, attaquée. Donc Pierre fut scandalisé, fut offusqué, bien parce que dans son cœur, en fait, il avait fait un amalgame entre donc cette révélation de Dieu qui est pure et cette conviction qui n'est pas de Dieu, qui vient des hommes et qui peut être utilisée par Satan. Cette chose était venue se greffer sur la révélation et l'avait empêché d'entendre et d'accepter la parole de Dieu. Pierre fut scandalisé, offusqué, on l'a vu. Alors que bien plus profond dans son cœur, donc il y avait cette révélation de Dieu. Et ce conflit entre les deux, donc il est venu à la surface, donc eh bien lorsque le Seigneur a été arrêté. Et là, donc eh bien Pierre a été passé au crible. Alors je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, bon, passer au crible. En regardant un peu, bon, passer au crible, finalement, ça peut simplement signifier séparer le bon du mauvais. Passer au crible. En regardant la définition et les utilisations, on peut dire que ça peut simplement signifie séparer le bon du mauvais. Le but du diable n'était pas de séparer le bon du mauvais dans le cœur de Pierre. C'était plutôt, de, bien évidemment, de tuer la révélation du Père qui était dans le cœur de Pierre. Dans Jean 10, 10, on lit bien le voleur est venu pour voler, pour tuer, pour détruire. Et nous voyons eh bien, cela au travers de ce qui s'est passé. Mais je crois que Dieu a utilisé ce qui s'est passé pour réellement passer au crible ce qui était dans le cœur de Pierre afin d'éliminer ce qui n'était pas de lui et ce qui était devenu un obstacle, une gêne à la révélation qu'il avait déposée dans le cœur de Pierre. La pure révélation de Dieu dans nos cœurs doit être libre de tout ce qui n'est pas de lui et qui pourrait venir l'altérer, la modifier, la biaiser. Alors, question. Avez-vous déjà été dans une situation où vous sentiez, vous croyiez que ce que vos yeux voyaient, la circonstance que vous viviez, ne collait pas, était en conflit avec ce que vous aviez dans le cœur, avec votre foi? Pour le dire de manière plus simple, avez-vous déjà été dans une situation où vous ne compreniez pas, à la lumière de ce que vous aviez dans le cœur, à la lumière de votre foi, avez-vous déjà été dans une situation où vous ne compreniez pas ce qui se passait, vous ne compreniez pas ce que vos yeux voyaient, ce que vous viviez, où vous aviez du mal à l'accepter, et où il pouvait y avoir une tentation d'être indigné? Alors, quand on est né de nouveau, Dieu le Père vient déposer dans nos cœurs la révélation de qui est Jésus. Parce que finalement, entre Pierre et nous, il n'y a pas de différence. Dans Jean, le Seigneur dit « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 44. Et au verset 65 du même chapitre, le Seigneur dit « C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que le Père ne lui permette, à moins que le Père ne le rende capable. » Donc, si on est né de nouveau, c'est Dieu le Père qui est venu déposer dans notre cœur une révélation de qui Jésus est. Cette révélation, elle est pure. Mais maintenant, cette révélation, est-elle restée pure dans nos cœurs? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Ou a-t-elle été affectée par quelque chose d'autre qui est venu se greffer dessus, qui est venu se broder dessus, qui est venu s'ajouter? Quelque chose qui, Matthieu 16, bien, n'est pas de Dieu, mais à des hommes et qui peut être utilisé par Satan? Et peut-être qu'on pourrait même ne pas en être conscient. Jusqu'au jour où les événements font que les choses arrivent à la surface et se manifestent pleinement, comme elles se sont manifestées pour Pierre. Donc cette révélation de Dieu dans notre cœur, si on est né de nouveau, est-elle demeurée pure ? Ou a-t-elle été modifiée? Et on peut faire une analogie avec, par exemple, porter des lunettes. Je peux porter des lunettes avec des verres colorés, avec des verres bleus ou avec des verres verts, et je verrai les choses autour de moi vertes, alors qu'elles ne le sont pas, alors qu'elles ne sont pas vertes, mais je les verrai vertes. Et tant que je vois les choses vertes, c'est peut-être pas gênant, jusqu'au jour où j'arrive à un feu rouge. Mais on rigole, mais spirituellement, la révélation que Dieu le Père est venu déposer dans mon cœur le jour où j'étais né de nouveau, est-elle demeurée pure ou est-ce que j'ai permis à ce que des choses viennent se greffer, se broder dessus, qui sont venues biaiser cette révélation, qui sont venues l'altérer, la modifier, et qui fait que je ne vois plus les choses de manière aussi pure, et peut-être que j'en suis même pas conscient, et que potentiellement il y a un potentiel à ce que je sois offusqué, indigné, scandalisé. Avez-vous déjà été dans une situation où ça vous a été difficile d'accepter ce que vos yeux voyaient à la lumière de votre foi? Alors, en étudiant, en réfléchissant sur ces choses-là, il m'est revenu un exemple, c'était, alors si je ne me trompe pas, parce que j'ai demandé à Sandrine, c'est un peu loin, elle ne se souvenait pas trop, mais je crois que c'est ça, mais donc je vais peut-être mettre quand même un croix, peut-être. C'était à Cambrai avant qu'on vienne sur l'île. Est arrivé dans l'église un homme qui, je crois, venait du sud. Il avait été muté pour des raisons professionnelles. Il était venu directeur du CAT à Cambrai. CAT, c'est centre Non. D'aide au travail. Et il était chrétien et donc il venait, il avait commencé à venir dans notre église et il nous avait expliqué donc eh bien que sa femme l'avait pas suivi. Elle était restée dans le sud, si, alors je sais pas où exactement dans le sud. Ils avaient encore un fils avec eux. Lui, il était chrétien et sa femme apparemment, je dirais apparemment, semblait avoir perdu la foi. Suite à un accouchement difficile, et apparemment, je pense qu'elle n'a pas dû pouvoir accepter avoir à souffrir autant. Et je crois que ça s'applique là aussi, scandalizo. Scandalizo, c'est peut-être pas nécessairement être offusqué de manière grande, ouverte. Donc, sommes-nous épargnés que ces choses-là ne nous arrivent? Point d'interrogation. Hein. Alors, après sa résurrection, je vais vous lire quelques passages. Dans Luc. Luc 24. On est après la résurrection. Commençons au verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, les deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, qui ont rencontré le Seigneur. Et finalement, donc, eh bien, il y a un moment donné, donc, eh bien, le Seigneur, eh bien, il fait semblant de continuer, eux, ils sont arrivés là où ils devaient aller, puis il le presse de rester avec eux. Donc le Seigneur, eh bien, il accepte, et ils sont à table, ils mangent, bon, vous connaissez, et le Seigneur disparaît. Et donc, eh bien, il se lève, et il retourne à Jérusalem. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Au fait, le Seigneur, il est apparu à Simon. Dans les écrits, enfin, personnellement, je ne vois pas exactement où il est dit, bon, où il est raconté qu'il était apparu à Simon, mais Dieu a vraiment pris soin de la foi. Hein? 1 Corinthiens 15, merci. Et donc, au fait, donc, Dieu a vraiment pris soin de la foi de Pierre, de cette révélation qu'il avait déposée dans son cœur, hein. Puisqu'après la résurrection, il lui est apparu aussi, apparemment en particulier, puisqu'on sait que bien Pierre était avec les autres lorsque le Seigneur est apparu dans la chambre, dans la salle, etc. Mais cette apparition, entre guillemets, peut-être plus individuelle, plus privée, donc, il est apparu à Simon. Et donc, ces deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, sur la route d'Emmaüs, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur ? Il leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre. Et le fait de comprendre
cette révélation qu'ils avaient reçue, eh bien, a amené une restauration, je dirais, de leur foi. Maintenant qu'ils pouvaient comprendre, sans doute, il y en a qui ont dû dire « Oh, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je comprends. » Cette compréhension, le fait de comprendre, amena une restauration de leur foi. Finalement, tous les morceaux, tout ce qui était comme cassé, les morceaux qui étaient là éparpillés, maintenant, ils pouvaient être remis ensemble. Parce qu'il leur a ouvert l'intelligence, il leur a permis de comprendre. Il est important de comprendre. Dans Éphésiens, on lit la prière suivante. Attendez. Dans Éphésiens 1, 15. Pour cette raison, depuis que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je n'ai pas cessé de rendre grâce pour vous, me rappelant de vous dans mes prières. Je ne cesse de demander à Dieu, au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez davantage, afin que vous le connaissiez mieux. Je prie aussi que les yeux de votre cœur puissent être illuminés afin que vous connaissiez l'espérance à laquelle il vous a appelé, les richesses de son héritage glorieux qu'il réserve aux saints et sa grande puissance incomparable pour nous qui croyons. Pierre, il a entendu parler de ces gens qui sont venus dans la foi et il dit « j'arrête pas de rendre grâce pour vous et je prie pour vous. Je prie pour que Dieu vous donne l'esprit de révélation et de sagesse afin que vous le connaissiez davantage, afin que vous aussi compreniez davantage l'espérance à laquelle il vous a appelé. » Si on retourne, parce qu'on ne va pas rester là quand même dans Psaume 73, Psaume 73, donc. Ça va aller vite, c'est la fin. Dans Psaume 73, donc on a été arrêté où, bien, il n'y a pas de doute, en vain j'ai gardé mon cœur pur, en vain j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et ensuite, au verset 16, il dit : quand j'ai essayé de comprendre toutes ces choses, ça m'était opprimant. J'étais oppressé par ça. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, alors je compris quelle était leur destinée finale. Et cette compréhension l'a rendu libre, a rendu libre la révélation de Dieu qu'il avait dans le cœur. C'est important de comprendre. Alors, pendant que je préparais cela, bon, il y a un autre exemple qui m'est revenu, c'est le témoignage d'un frère que j'avais entendu qui était assez court, et je peux vous assurer que ça n'a pas été prévu comme ça. Et ce matin, quand il est venu à la maison, j'ai dit, parce que jusque-là je n'en avais pas encore parlé, j'ai dit, écoute, je dois amener le message, et puis il y a le témoignage que tu as apporté une fois qui m'est revenu, est-ce que je peux en parler, ou est-ce que tu... Et il en a partagé un peu, et puis en fait, je m'aperçois bien que c'est mieux que lui vienne le partager. C'était pas prévu comme ça, donc Pascal, si tu peux, ça te dérange pas, s'il te plaît, ouais. Parce que ça m'est revenu alors que, c'était pas du tout prévu comme ça, mais. Parfois, donc, il y a des choses que nos yeux voient, il y a des choses que nous vivons qui peuvent être un défi à ce que l'on croit. Parce que pendant un moment, on se dit, mais ça colle pas avec ce que j'ai dans le cœur, ça colle pas avec ma foi. Et je sais que Pascal avait partagé une fois, c'était à propos du décès de ton papa. Tu peux... Merci. Vas-y.
Ce qui s'est passé à l'époque... j'étais chrétien, je le suis toujours d'ailleurs, et mon père était malade, il était hospitalisé, et on sentait bien quand même qu'il arrivait sur la fin. Et il s'est trouvé que Je l'ai appelé le samedi matin, avant de partir. Et le samedi matin, je l'ai appelé, et c'est comme si par le téléphone, la présence de Dieu dans sa vie passait par le câble, remplissait dans la maison et poussait les murs. Et mon père, qui était un homme violent, non pas avec sa femme ou ses enfants, mais qui a fait la guerre et qui a vécu beaucoup de traumatismes, avait beaucoup d'amertume et de haine. Et quand je priais pour lui, je priais avec larmes et avec inquiétude. Je disais, Seigneur, quand il va comparaître devant toi avec de la haine et de l'amertume, je me demande ce qu'il va devenir. Et j'espérais que Dieu agisse, mais vous savez, il y a des moments, ça paraît tellement gros qu'on espère, on a la foi que Dieu agisse, mais on voit pas comment. Et ce week-end-là, donc, je l'ai laissé et je sentais dans mon cœur que Dieu voulait le reprendre. Seulement, voilà. Moi, je partais avec une équipe faire un week-end d'évangélisation. Et donc, j'ai prié comme un fils chrétien. Et j'ai prié en disant, ce que je te demande, Seigneur, c'est pas de pas le reprendre. Il est à la fin de sa vie. C'est une douleur. Mais quelque part, j'accepte la douleur. Elle est écrite dans la vie. Et je compte sur Dieu pour m'aider. Mais ce que je te demande, c'est de le maintenir une semaine de plus. Pour que le week-end prochain, je puisse prendre mon père dans les bras, je puisse l'embrasser une dernière fois, quoi. Et je dis, ma prière est légitime. Et je suis parti comme ça. Et le dimanche matin, j'étais dans la salle de bain, en train de me raser. Et vous savez, il y a des moments, vous expliquez pas ces choses-là. C'est comme s'il y avait quelqu'un debout derrière moi. Et je sentais l'Esprit de Dieu qui mettait dans mon cœur, je vais le reprendre, je vais le reprendre. Moi, je disais, mais non, Seigneur, tu peux pas faire ça. Tu sais ma prière. Et je vais le reprendre, je vais le reprendre. Et c'était tellement fort et en même temps tellement doux que je lui ai dit, écoute, le choix de ma vie, c'est tu es mon Dieu, tu es mon maître. Et je veux pas que ce soit des mots, je veux que ce soit une réalité. Je suis pas d'accord avec toi. Mais si tu le prends, j'accepte. Et 9h ou 10h du matin, ce jour-là, mon père est décédé et Dieu l'a repris. Et j'ai accepté, parce que Dieu est Dieu et il est mon Dieu. J'ai souffert, parce que j'étais un enfant qui avait perdu son père. Et puis en même temps, quelque part j'ai querellé avec Dieu. Parce que je lui disais, c'est pas juste. C'est pas juste, tu n'es pas juste. Tu dis que tu es juste, mais tu ne l'es pas. Moi, mon père, je te demandais qu'un truc que tu pouvais faire. C'est même pas un miracle. C'était de le garder une semaine. Moi, je suis parti pour te servir. Mon père, tu m'enlèves la dernière chance de le prendre dans mes bras, de l'embrasser, de le regarder dans les yeux, de lui dire, papa, je t'aime. C'est pas juste. Et ça a duré 6 mois, frère et soeur. 6 mois. Et au bout de 6 mois, je sais pas comment, 6 mois, je sais pas pourquoi à ce moment-là plus qu'un autre. Mais au bout d'un moment, j'ai senti la paix de Dieu venir dans mon cœur, la consolation et la restauration. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, toi, à tes yeux, ta prière, elle est juste, parce que tu voulais revoir ton père. C'est la prière légitime d'un enfant. Il dit, mais moi, je suis Dieu, je suis juste, contrairement à ce que tu crois. Je suis juste, je suis bon. Et je suis pas un Dieu qui prend plaisir à la souffrance. Maintenant, dis-moi, s'il était légitime de faire souffrir ton père une semaine de plus pour exaucer ta prière. Et Dieu a touché mon cœur, j'ai pleuré, puis j'ai dit pardon Seigneur, parce que tu sais toutes choses, et toutes choses tu les fais bien. Mais moi, dans ma vision, c'était juste et légitime, et ça l'est humainement, c'était juste et légitime que je puisse revoir mon père une dernière fois. Et lui, il me dit oui, mais c'est vrai, mais c'était pas juste et légitime que moi je rallonge 7 jours de souffrance à ton père simplement pour exaucer ta prière. Dieu répond à nos prières. Mais Dieu répond pas à n'importe quoi, n'importe comment. Et Dieu ne me bénira pas au détriment de mon frère ou de ma sœur ou de ceux que j'aime. Quoi. Voilà.
Merci. Mais je crois que donc pendant ces 6 mois, donc, il y avait du potentiel pour du, entre guillemets, scandaliso aussi de se produire. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci.